Bonjour et bienvenue sur France Inter dans la bande originale avec cette semaine pour fêter la nouvelle année qui approche, une sélection de nos meilleures émissions en compagnie de la bande au grand complet. Pour bien débuter, Sylvie Testu est à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux. Elle est avec nous. Bonjour Sylvie. Merci de venir nous parler. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Sylvie Testu est au théâtre.
Ouais.
La deuxième, c'est que Sylvie Testu est avec nous jusqu'à midi et demi. Ça fait deux bonnes nouvelles. C'est bien pour une journée.
Ben, je suis ravie deux fois.
C'est cool, c'est cool. La pièce s'appelle L'heureux stratagème. C'est signé Marivaux. Mise en scène par Ladissa Chola. J'insiste tout de suite sur la mise en scène parce que c'est très rock, en fait, comme Marivaux.
Ouais, c'est très rock, c'est très sanguin, c'est très dans l'émotion. Plus que dans une chose un peu classique, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Parce que on n'a pas une patate texte... chaude dans la bouche, quoi.
Non,
on n'a pas. On est en train de déclamer du Marivaux.
C'est ça.
Voilà. Et puis comme le théâtre, c'est à Édouard VII, c'est déjà un gros théâtre, ouais, comme ça, privé, il voulait absolument entrer dans quelque chose qu'on ressente, plutôt qu'on écoute et qu'on regarde,
ouais,
quoi.
Ça claque.
Et ça fonctionne. Alors tout part d'une. Alors, il y a des marquises, des comtesses. Je ne sais plus si vous êtes la marquise ou la comtesse.
Je suis la comtesse.
Ah, vous êtes comtesse.
Je suis en dessous de au-dessous de la marquise.
Voilà. Mais vous êtes la force accueillante. Tout se passe chez vous. On est dans une unité de temps, de lieu, d'action avec vraiment les codes du théâtre classique. Et puis vous êtes promise à un homme, sauf que vous voulez continuer de savoir si vous allez plaire et vous poussez le quoi. Non.
Oui, bien sûr. C'est dit très élégant. C'est bien.
Vous continuez à éprouver le désir des autres et voir un peu finalement si le désir d'un nouvel homme ne viendrait pas balayer celui du précédent.
Voilà, c'est ça. C'est,
et c'est même pas si elle a déjà désiré le précédent.
Non, c'est qu'il y a un très beau chevalier qui passe par là.
Un Gascon.
Et voilà, un Gascon qui est lui. Pour
très très drôle, joué par Jérôme Robard. Oh, extrêmement
super.
Drôle.
Ah oui, moi je suis obligée d'arrêter. Enfin, la réplique, drôle. C'est le public qui la donne. Hein. Moi je dois attendre, parce que chaque fois qu'il parle, les gens rient, donc j'attends. Et ensuite, c'est à moi de parler.
C'est une question de tempo.
C'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau.
Et
le jour de la première, d'ailleurs, la metteur en scène m'a dit attends bien, Sylvie. Parce qu'on n'entendait absolument rien de ce que je disais au départ, quoi.
Parce que... À la fin de sa phrase, vous parliez, sauf que vous étiez couvert par les rires.
Exactement.
Du public.
Voilà. Donc il fallait que je hurle. Il m'a dit non, mais si t'attends, tu verras. Il y a un moment, ça cesse.
Non, c'est un personnage. Donc arrive ce bonhomme.
Ouais, ce chevalier. Et elle est très attirée par lui. Et subitement, elle décide que, elle va tenter l'aventure. Sauf que, ce chevalier devait lui-même se marier avec la marquise. Et la marquise, et donc la personne que je délaisse, décide de monter un stratagème. Et en fait.
Et tout se fait autour de la fidélité, ou l'infidélité, et la jalousie.
Oui. C'est ça. Et puis aussi du désir de possession. En fait, elle se sent pas infidèle. C'est ça. Et c'est vrai, si on y pense, on se dit, l'infidélité quelque part. L'infidélité, au départ, on va laisser. Qu'elle soit féminine ou masculine, à la base, c'est aussi se tromper soi-même déjà dans un premier temps, c'est sortir de sa vie, non? Et en fait, il y a certainement une lassitude, il y a quelque chose. Ce que dit mon personnage au départ, et je le vois, il est très sceptique sur ce que je raconte.
Regardez-moi, Sylvie, je suis d'accord.
Mais en tout cas. D'accord, Nagui.
Mais en tout cas.
T'es d'accord que c'est un truc de fils, hein?
Non. Parce que je pense qu'on, à la base, avant le mensonge.
Laissez-la parler aussi.
Il y a un désir de se perdre. Oui. C'est ce qu'elle dit au début de la pièce. Quand elle dit, il y a un seul homme qui compose tout votre univers, on ne doit regarder qu'une seule personne. Et ça, c'est faible en émotion. Ça, c'est faible pour une vie totale. On ne peut pas signer un contrat pour toujours sans jamais se dire, il va y avoir une égratignure. Ça va jusque-là.
Ouais.
Elle pousse les choses un peu loin.
Ça permet finalement à celui qui est amoureux de vous, incarné par Eric Elmosnino, de se dépasser un peu, parce qu'il était quand même un peu chiant, un peu gnangnan, un peu dans la routine, jamais très très bien habillé, pas souriant, pas très heureux.
Les choses étaient acquises.
Un peu, il devient un peu moins chiant sur la fin, je trouve.
Oui, oui. Ouais. Il devient un peu plus sexy à la fin.
Un petit peu déjà, il change. J'ai
dû fermer l'œil à ce moment-là.
Non, mais parce que tout d'un coup, il a envie de susciter le désir. Et c'est pas acquis, parce que finalement il pensait que la relation elle était acquise et qu'il n'y avait plus d'efforts à faire.
Voilà, c'est exactement ça. Et elle le dit dès le départ de la pièce. C'est là où Marivaux, quelque part, est quand même dans les sentiments masculins et féminins.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il voit les deux côtés. Lui, par exemple, Dorante, donc joué par Elmosnino au départ, est affligé parce qu'il pensait qu'elle lui appartenait quelque part. Il y a. dans l'amour,
je te trompe, mais si tu avais fait un effort, on n'en serait pas là.
C'est ça.
Voilà. Voilà.
Non, mais là, comme s'il avait signé un bail, alors que c'est pas ça.
Exactement. Voilà. Lui dit, vous traitez ça comme une dette et ce n'est pas une. Voilà.
On verra si le stratagème fonctionne ou pas. Finalement, s'il y a des dommages collatéraux ou pas dans cette pièce drôle, c'est au théâtre Édouard VII, j'ai oublié de le préciser. Mais question d'abord concernant Sylvie Testu autour de cette table. Savez-vous ce que Sylvie ne fait jamais seule?
La vaisselle,
la cuisine.
Non.
L'amour.
Dormir. Dormir. Dormir.
Je ne veux pas savoir.
On peut non, peut-être le dire.
Quoi donc, Sylvie?
Dormir.
Aller au cinéma.
Non, vous voulez dire quoi?
L'amour seul.
Bah si.
Ça ne s'appelle plus l'amour. Non, je suis désolée. Ça porte un autre nom.
Ah, ouais.
Soyons exacts.
L'onanisme.
Soyons précis.
Oublions.
Les vacances. Les vacances.
Non, non.
Les courses.
Le sport. Non, non. C'est...
S'ennuyer,
est-ce
dormir,
que c'est surprenant
que le tennis, pas seul. Ce ne sont pas des tâches ménagères.
Du ski.
Je ne sais pas comment font ses camarades, puisque c'est un truc professionnel, mais...
À répéter.
La concentration.
Ouais, je vais accepter le répéter de Frédéric Seri, c'est apprendre son texte. Vous n'apprenez jamais votre texte seul.
Non. En fait, c'est parce que j'ai une mémoire, je photographie, je vois même la page. Je vois, hop, à la fin du mot, 46.
Ouais.
Et en commençant en haut de la page à gauche, ça va pas. J'arrive plus après à l'incarner correctement. Donc, évidemment, au départ, je fais une première passe toute seule, mais après, je ne veux plus lire le texte. Donc, je le dis avec quelqu'un.
C'est qui quelqu'un? Vous avez quoi? Un coach?
Alors,
vous avez un répétiteur?
La première personne qui se présente. Et il se trouve que souvent, c'est le père de mes enfants, le pauvre. Le jour de la première, il a eu un cadeau de première, lui aussi.
Il a dû être content. Pour Marivaux, il a dû être content.
Ah, il était ravi. Non, à part ça, non, il était hyper content. Parce que souvent, ce sont des scénarios.
Ouais.
Et c'est une langue plus contemporaine. Et là, il me dit, oh, c'est vachement bien cette langue. Parce que c'est vrai, peu de gens qui ne font pas de théâtre lisent du Marivaux.
C'est clair.
Voilà. Ouais. Et donc, il a découvert Marivaux et finalement, il est en train de lire L'île des esclaves, là, maintenant. C'est quand même drôle.
Il prend goût. Ouais. Quelle question philosophique, un matin, sa fille de 7 ans lui a posée?
Pourquoi on meurt?
Pas loin.
Pourquoi on vit?
Oui.
Non. C'est chaud, hein? C'est
pas loin, mais un peu loin.
Moi, je pense à la
mort. Troisième phrase et on avait une chanson. Hein.
Oui, c'est vrai. Ça fait un refrain,
là. Alors, t'as le titre.
Céline Dion.
Le titre, c'est « Ça sert à quoi d'exister ?» Elle est violente, cette phrase.
C'est chaud.
Ça sert à quoi d'exister? Mais que répondre?
Ben, il y a un petit blanc.
Pour laisser passer les rires.
Ah ouais, non, là, c'était parce que j'étais dans un désarroi total. Et elle s'est retournée et m'a dit « Maman, mais en fait, ça sert à quoi de vivre ?» Mais comme ça, tellement placé, tellement droit. J'ai dit, il y a beaucoup de questions comme ça auxquelles il vaut mieux pas apporter de réponse, que sinon on s'amuse moins. J'ai dit, non, en fait, c'est un terrain de jeu, la vie, avec des règles. Il faut juste en respecter certaines, mais c'est un terrain de jeu. C'est comme si je te demandais, ça sert à quoi de jouer? Ça fait juste plaisir, si tu
respectes les règles. C'est joli comme réponse.
Bah, je savais pas quoi faire d'autre.
Non, mais c'est balèze, en tout cas.
Elle avait 6 ans, je peux dire que j'étais quand même pas super tranquille. Monsieur, est-ce que j'ai bien répondu?
Ouais, absolument. Bonne réponse. La plupart des actrices sont invitées à des fêtes, reçoivent généralement des cadeaux de grandes marques.
Elle refuse.
Des échantillons. Non, Sylvie reçoit autre chose.
Elle prend celle des autres.
Du vin.
Des chèques.
De la nourriture.
Pas loin.
De l'alcool fort, du cognac, des gâteaux, des choses comme ça.
Non. Du saucisson.
L'alimentation.
Charcuterie.
L'alimentation, la bouffe, des bons cadeaux, des restos.
Du pâté, des terrines.
Non.
Des cornichons.
Du fromage.
Oui, mais lequel?
Du camembert.
Oui.
Ah oui, c'est vrai, le camembert. Passion camembert, c'est vrai. J'ai oublié ça.
Oui. Passion camembert.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est terrible. Hein.
Moi, j'ai pas entendu la question, donc je sais pas.
Ça coûte pas cher.
La dernière fois que vous êtes venu, on avait rigolé sur le camembert. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Absolument. C'est ici que vous nous aviez raconté avoir reçu des cartons de camembert. C'est Dominique Bessner qui vous a dit viens. Il y a un carton de camembert qui a été livré.
Qui a été livré le vendredi soir et il l'a découvert le lundi matin. Ça a passé tout le week-end. Et camembert au lait cru. Formidable, moulé à la louche.
Sinon,
pendant tout un week-end, un petit
là,
printemps, parce que j'avais dû le dire, parce que c'est vrai que le au petit déjeuner, ben voilà, parce qu'on se raconte. Au petit déjeuner, je mange du fromage.
Ah, d'où la question de votre fille.
Non, elle aurait pu dire pourquoi n'es-tu pas seule, maman?
Comment ça se fait?
Comment papa est toujours là? Pourquoi petit déjeunes-tu face au mur tous les matins?
Avec ses enfants, justement, puisqu'on parle beaucoup de votre fille, il y a deux enfants, c'est ça?
J'en ai deux, j'ai un garçon et une fille.
Oui. Avec ses enfants, c'est papa qui s'occupe de tout ce qui concerne des problèmes, des soucis, et quel est le rôle de maman?
La fête.
Les câlins?
L'argent de poche?
Non.
Les remontrances?
Pas fou.
Non.
Les punitions?
Non.
Le rire? L'amusement, les divertissements, les loisirs?
C'est plus que le rire, vous dites la déconne. La déconne, c'est moi, papa, c'est les soucis.
Ça part.
Mais en fait, c'est
good cop, bad cop.
Oui, mais en fait, je le soulève parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on nous disait « Mais vous êtes un couple à l'envers ?» Mais je dis pourquoi il y a un envers un endroit. Et en fait parce que un jour dans un jardin, mon fils tombe et on était tous les deux, hein, le père et la mère, et puis il dit papa. Et tout le monde s'est retourné vers moi et dit ah, il dit pas maman quand il tombe. Je dis non, il ne dit pas maman, il dit papa. Et donc il court plus vite, le père.
C'est allô papa bobo et pas.
Et voilà, et moi j'arrive et puis on dit alors qu'est-ce qu'on fait maman? Eh ben écoute, on va faire je cherche quoi pour les amuser. Et c'est vrai qu'ils trouvent
les rires plus volontiers. Et vous revenez à votre thèse, la vie est un jeu.
Voilà. Et c'est vrai que ça m'avait blessée au départ quand on nous disait qu'on était à l'envers. Je me disais, bah alors je suis une mère démissionnaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis finalement, ça a l'air de bien se passer, ils sont contents comme
ça. Allez, dernière question, qu'est-ce que Sylvie Testu peut faire pendant des heures?
Dormir.
Lire, contempler,
dessiner,
rêver,
manger des camemberts. Rêver, rêvasser.
Non, je fais très vite ça.
Chanter, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant
des heures à faire quelque chose où généralement nous on essaye d'aller le plus vite possible?
La douche.
Les courses.
Frédéric Sigrist, t'as une confidence à nous faire, attention.
Dis quoi?
Attention. Non mais attends, tu sais, quand t'as des enfants, ça devient ton seul espace de refuge. Hein.
Je lui dis, nous on essaie de faire...
Je suis en train d'écrire un livre où le père fait exactement ça.
Mais sauf
que, au lieu d'être sous la douche, il est aux toilettes. Quand on le cherche, on dit, ah, il doit être aux toilettes.
J'appelle ça ma forteresse de solitude.
C'est bien, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous on essaye de faire ça, de même
la douche.
Éventuellement de ne pas le faire.
Le ménage.
Exactement. Bien vu, Alexis Rossignol. Vous aimez, vous êtes une maniaque du ménage.
Ouais.
Vous nettoyez en profondeur.
Alors il y a des moments particuliers. En fait, c'est souvent quand j'étais pas. Ouais, non, même pas.
Non,
c'est quand je suis absente pendant longtemps. Et il y a une sorte de désir de réappropriation,
ouais,
je pense.
Ouais.
Et je suis une maniaque du miroir, par exemple. Si moi je nettoie un miroir, il n'y a plus un reflet. Il n'y a pas ce petit truc qui ressemble à un micro arc-en-ciel quand on bouge la tête devant. Non, on ne se voit pas bien.
Pardon.
Moi, je veux qu'on voit tout bien, qu'on ne le voit pas. Et c'est vrai, je vais même jusqu'à nettoyer les coins avec des cotons-tiges.
Les plantes
de cotons-tiges. Une dame qui vient chez moi pour m'aider à faire le ménage. Quand je fais le ménage, ça l'énerve, elle prend peur.
Mais pardon, on peut appeler ça maniaque ou c'est abusé?
Oui, parce que je fais le tour des robinets et tout.
Non, appliqué.
L'heureux stratagème, donc, c'est au théâtre Édouard VII avec Sylvie Testu, que vous qualifieriez d'ailleurs toutes les deux de pièces féministes ou pas, Leïla, Sylvie.
C'est une pièce qui met en lumière les femmes. Je ne sais pas si elle est féministe.
Elles ont le beau rôle, en tout cas.
Ont le beau rôle.
C'est elle le moteur de toute intrigue.
En fait, dans le sens où c'est un peu féministe quand même, c'est que, bon, alors ça a été écrit en 1733, mais surtout, ça met à l'honneur le paradoxe féminin. Ça met à l'honneur, en fait, l'endroit où Marivaux donne le droit aux femmes d'avoir plusieurs sentiments qui se collent les uns aux autres et que ce ne soit pas de l'hystérie. Que c'est quelque chose de ressenti réellement profondément au quotidien. Et ce ne sont pas des crises. Moi, mon personnage, qui est d'une mauvaise foi sans nom pour s'en sortir, quelque part, elle a une envie urgente de vivre. Et de vivre des émotions qui sont fortes, quitte à se tromper. Et finalement, il la sauve, cette comtesse. Bon, au final, donc ça s'appelle l'heureux stratagème, on ne dévoile pas énormément de choses, donc l'issue est heureuse, en tout cas pour mon personnage, c'est qu'il n'y a pas quelque part de choses à payer, il n'y a plus de dettes, ça se finit sans qu'il y ait sans qu'on lui demande à cette comtesse de se justifier plus que ça.
Albert, chez Marivaux, et particulièrement dans cette pièce, l'épreuve que subissent les uns, les autres la subissent aussi, et donc c'est très équilibré. C'est le paradoxe justement chez Marivaux, c'est ça qui est passionnant.
Non, c'est pas un paradoxe, c'est une malice dans l'écriture, que chacun va vers une piste, un stratagème justement, et fasse tomber l'autre aussi dans un autre excès duquel il doit se sortir, et ainsi de suite. Et donc il y a une espèce d'avalanche de problèmes posés par les uns et les autres. Je pense notamment à une comédienne, je tiens à citer son nom parce que j'ai trouvé brillante, Roxane Durand, qui est formidable, avec sa chevelure qui se déploie à la fin, mais qui est votre servante, je sais pas suivante, et qui tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'elle l'entend déclamer des phrases sur l'infidélité, pourquoi resterai-je fidèle à un seul homme.
Elle résume
désopilant.
Et elle dit, eh ben moi aussi je vais faire ça.
Voilà.
Donc elle copie et elle essaye de retranscrire, de reformuler le même discours sans avoir bien capté les arcanes, et c'est extrêmement drôle.
Et c'est la mise en abîme chez Marivaux parce que les serviteurs, les servantes assistent à ce spectacle, font comme les maîtres, avec maladresse mais avec malice aussi. Ça c'est tout.
Mais je sais pas si c'est féministe en vrai. Simplement, les personnages féminins ont le droit d'éprouver une forme d'inconstance temporaire, d'aller voir un peu ailleurs comme d'autres personnes. personnages masculins le font depuis des générations et des générations. Il s'avère que il y a erreur potentiellement parce qu'on s'est un peu emballé. Je suis pas persuadée que ce soit plus féministe.
Il y a une analogie avec Don Juan d'ailleurs.
La vanité est présente, la vanité est citée.
Voilà, c'est là. Ben voilà, c'est exactement ça. La différence de ce qui se passe, parce qu'il y a un côté aussi Downton Abbey avec les maîtres et les valets.
Ce qui est en les deux niveaux. Ouais.
Et la différence, c'est que la suivante, elle. Quand la comtesse lui explique qu'elle va vivre que la moitié de sa vie si elle ne s'adonne pas à l'infidélité, c'est que quelque part, elle n'a pas l'autorité, l'arrogance et surtout l'orgueil qu'a sa maîtresse. Donc en fait, elle, elle y va de bonne foi. Elle dit, ah oui, bah alors si on vit qu'à moitié, bah alors moi je veux vivre à 100%, je vous suis. Alors que moi, mon personnage a un amour propre qui est...
Démesuré.
Est-ce que on pourrait dire c'est extrêmement moderne aussi cette notion de tester l'amour de quelqu'un en faisant créer une jalousie par une vraie ou une fausse infidélité, parce qu'on ne sait même pas d'ailleurs si l'infidélité s'il y a consommation ou pas en termes d'infidélité. Simplement, elle lui met la puce à l'oreille aussi en disant il n'y a pas que vous dans ma vie, je ne vous aime pas particulièrement, j'ai envie d'en aimer un autre. Elle fait naître la jalousie.
Oui, l'infidélité, à partir du moment où elle y pense, c'est déjà trop tard. Enfin, je veux dire, elle part avec le gascon finalement.
Mais surtout elle dit
pardon, hein. Mais quand même elle aurait pas consommé physiquement si on parle de
voilà.
Ça elle aurait même
le
pas
désir
embrassé.
Étant déjà
le désir
elle le est désir en... déjà d'infidélité
elle préfère et
déjà...
mais elle oui lui préfère quelqu'un
le désir
d'autre.
Est déjà quelque chose
même 10 minutes c'est foutu ouais.
Les hommes quand ils ont envie de nous quitter ont-ils autant de scrupules
ils font-ils tant de façons
font-ils tant de façons donc elle remet les choses
mais pour répondre à sa question c'est-à-dire oui c'est contemporain mais ça veut dire que c'est depuis toujours que finalement les relations
c'est la nature humaine. Est-ce que vous pensez que les couples qui sortent du théâtre ont ce genre de discussion
Il passe une très bonne soirée.
C'est au théâtre Édouard VII avec Sylvie Testu et maintenant François, des révélations à vous faire.
Salut les amis. Salut Nagui.
Coucou Sylvie. Moi aussi j'ai été séduit, emballé par l'heureux stratagème. Et je sais que tous ici dans la bande originale, nous nous sommes reconnus dans les divers personnages de cette pièce. À commencer par Leïla, qui s'est complètement identifiée à la comtesse quand elle dit au premier acte « Je te cite et j'ouvre tes guillemets Sylvie ». Bien loin que l'infidélité soit un crime, je soutiens, moi, qu'il ne faut pas hésiter un moment d'en faire une quand on est tenté. Oui, j'ai kiffé cette pièce. Valse intemporelle du désir et des sentiments, où sont mis à nu les rouages de la passion, qui frappe de stupeur les cœurs et les esprits, mis à l'épreuve dans une atmosphère qui allie allégresse et cruauté, ruse et sincérité. Ça, c'est envoyé. Autre chose que les analyses des théâtrés du Masque et la Plume, dont Nagui m'a confié tout à l'heure qu'il les écoutait pour s'endormir quand il avait du mal à trouver le sommeil. Évidemment, j'ai été...
pas le répéter.
Oui, mais quand même, je suis là pour dire la vérité. Évidemment, j'ai été surpris que le metteur en scène ait choisi de situer l'action dans les années folles, et non sous la Régence, au XVIIIe siècle, mon époque préférée complètement, à cause des chemises à jabot glam rock, des vestes roses bonbons, des souliers à talonnettes style platform boots, et des perruques poudré façon zouzou coiffure. Mais je dois dire, Sylvie, que dans ta robe en lamé, près du corps...
Ouais, très près du corps.
Année 20, tu as suscité l'admiration de mes amis de la bande originale. Et comme je n'oublie pas que mon job ici, c'est la révélation de ce que le grand public ignore et n'entend pas, je peux dire que dans la pénombre du théâtre Édouard VII, Daniel Morin, qui venait de se réveiller au milieu du troisième acte, m'a broyé l'avant-bras en marmonnant. La testu, j'aimerais bien la tester.
Classe.
Assume, Dani, assume, excuse-toi et bonne émission.
Merci.
Sur France Inter.
Non, la vraie information, c'est que Daniel Morin se réveille pendant l'acte. Ça c'est la vraie étape d'information.
C'est vrai que c'est nouveau.
Ça, c'est une info.
Ça, c'est de l'info.
On dit s'endormir sur la viande en argot.
Au théâtre Édouard VII, donc l'heureux stratagème, cette pièce signée Marivaux, et j'ai envie de dire re-signée Ladislas Chola, parce que c'est vrai que, comme l'a souligné Albert, la transposition dans cette période, la manière dont c'est fait, le rythme aussi, quand je dis que c'est rock'n'roll, les mots, les verbes sont les mêmes, sauf que le tempo, la manière dont vous jouez, là, c'est vraiment le travail de Ladislas Chola de vous avoir dirigé comme ça.
Oui, c'est ça, il voulait que ça se passe
de manière plus contemporaine, on va dire.
Voilà, dans les années folles, parce que c'est une période où il y a un désir de liberté, que le rythme justement n'est pas le même et qu'on accepte une certaine forme de, pas de décadence, mais où dans les rapports humains, on a l'impression que ça s'ouvre un peu.
Où la vie est une une fête.
Exactement. Il n'est pas un jeu, c'est une fête. Et en fait, il avait envie de ça parce que quelque part, ça révèle la cruauté. À partir du moment où vous avez le droit et que vous prenez ce droit, ah, bah alors, ça enlève les atours, ça enlève un peu tout ce qu'il y a autour, le décorum. Et Marivaux, qui était par ses contemporains pas très bien jugé, parce que il parlait a priori de choses un peu trop légères. En fait, Ladislas Chola, donc le metteur en scène, disait, mais en fait, ce sont des choses qui sont lourdes de conséquences pour chacun. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'épreuve l'autre, mais eux-mêmes, par rapport à ça. Cette comtesse, elle se consume à un moment.
Ce qui est drôle, c'est que aussi ils sont tous sincères dans leur... dans le drame qu'ils sont en train de vivre. Quoi. C'est-à-dire que aucun ne joue ou ne sourit de ce qu'il vit. Ils sont tous en train de vivre un drame.
Ouais, ça c'est essentiel, parce que si quelqu'un est un poisson froid qui fait de la stratégie, alors ça devient quelqu'un de mal aimable, ça devient quelqu'un de, qui n'est pas intéressant humainement. Quelqu'un qui se trompe mais avec beaucoup de passion, alors on peut lui pardonner.
Il est touchant. Quelque part.
Oui, voilà, c'est ça.
Il ment avec passion.
Mais oui.
Ment pour obtenir une vérité, c'est
exactement.
Très bizarre.
Voilà,
c'est
marrant, pour
parce
obtenir.
Que ça rejoint un peu la télé-réalité d'aujourd'hui quand on voit des gens qui établissent des stratagèmes pour gagner.
Ça va,
Alexis Rossignol ? Oui,
non, j'ai pas vu Marivaux à la télé-réalité. Tu veux dire quoi ?
Ah bon ? Mais il est au bout du rouleau en ce moment.
Ouais, oui, c'est ça. Saluons également le travail d'Emmanuel Roy parce que le décor, la scénographie est dingue.
C'est dingue. C'est un jardin dans
lequel. Au lever de rideau, on se prend une claque. Tellement on sent que.
Il y a des soirs où le décor est applaudi d'ailleurs.
C'est pas non, c'est vrai qu'il est joli.
On sent qu'on a mis de l'argent dans le décor.
Je voulais pas dire ça comme
ça. Faut le dire.
Mais on sent que les moyens sont. Non, mais tu as
alors,
raison.
Je ne sais pas combien ça a coûté.
Non, mais les moyens sont là en tout cas.
Oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas, il avait aussi envie de ça. C'est-à-dire, il y a un côté sexy dans ce jardin. Ce qui se passe à l'arrière des soirées dans les maisons, on le sait.
On est dans un patio avec des tables.
Voilà, dans un patio, la maison étant de là où on arrive tous quand on descend l'escalier, c'est censé être ma maison avec mon jardin où il y a un piano qui traîne et qui voudra jouera une fois qu'il aura bien bu les verres de champagne qui traînent sur une des tables. Quoi.
Et un immense miroir qui a aussi son effet pour le final. À vous de le découvrir.
Très bien nettoyé le miroir.
Au théâtre Edouard.
Non, ils ont fait exprès.
Non, pas tant que ça.
Ils l'ont laissé sale.
Oh là là.
Parce que comme ça, la vie est passée dessus. Tous les soirs, je suis intriguée, je veux le nettoyer. On empêche.
La vie est passée sur lui aussi.
Ouais, la vie est passée dessus aussi.
C'est bien.
Ça va les amigos ?
Ouais.
Alors, bon, on est lundi, je sais, on dirait pas comme ça. Ce matin, il y a une lumière qui fait très mercredi, je trouve, ce matin.
C'est vrai que c'est une lumière de mercredi.
J'ai lu que Samsung mettait déjà le paquet en ce moment sur la technologie Wicca. Alors, la technologie Wicca, à ne pas confondre avec la technologie Wibus. Je viens de Belgique, hein. On prononce pareil, Wicca.
Oui.
Donc, pardon. Mais vous voyez ce que c'est la télé Wicca ou pas ?
Non.
Alors, télé Wicca, c'est plus net que la télé 4K, évidemment, mais c'est 16 fois la résolution d'une télé Full HD. Vous avez déjà vu une télé Full HD ?
Oui.
On voit bien, hein. On voit vraiment bien. L'autre jour, je regardais Cache Investigation, ça, j'avais l'impression qu'Élise Lucet était vraiment là, quoi. Vraiment, elle me faisait, vous allez tout me dire, j'étais là, désolé, Élise. J'étais de la distraction. Franchement, j'ai passé ma soirée à déclarer ce que je devais au fisc et tout. Heureusement que sur Inter, c'est pas des grosses sommes, quand même. Mais Élise, je la voyais tapée dans un coin de l'écran, là, insatisfaite. Bref. Et à un moment, c'est impressionnant, la télé Full HD. D'où question, est-ce qu'on pourrait pas se dire que là, c'est bon, la télé, c'est assez net, quoi. Enfin, je veux dire, en plus en 2019, c'est quoi la télé en 2019 dans les grandes lignes? C'est 40% d'images de Nagui déjà et 60% de reportages en immersion avec la BAC d'Antibes. Tu vois vraiment? Il est 6h du matin, la police en profite pour lancer une perquisition. Trouvera-t-elle quelque chose chez l'ancien animateur préféré des Français? Est-ce qu'on a besoin de voir Nagui encore mieux? Vraie question. Nagui, moi je le vois en vrai une fois par semaine, je mettrais bien du plasma entre nous, je peux te dire, et c'est pas qu'une question d'haleine. Hein. À un moment, ça vient, tu pourrais dire, c'est bon! On voit bien, c'est bien la télé, non? Parce que pendant 10 ans, c'est quoi? Bien, on utilise le cerveau des ingénieurs pour régler des trucs plus importants, quoi. Je sais pas, le plastique dans les océans, le climat, le cancer. Imagine, t'es dans ta chambre d'hôpital, c'est ta 9e chimio, t'en peux plus, t'espères que la médecine va progresser. Là, t'allumes la télé et tu vois un robot teckel qui fait du breakdance. Avec deux chercheurs qui font à 100 000 dollars près, on lui faisait faire des cannelloni. Alors, super! Trop bien! Ça va parce que c'est en 8K, tu vois. Waouh, on voit trop bien comment je vais mourir. Non, mais vraiment, sérieux, on a des gens brillants sur le plan analytique qui pourraient être plus utiles à l'espèce qu'en construisant des téloges, quoi.
C'est vrai,
je vous le dis, si on doit compter sur moi pour pour une solution contre le cancer. On est pas dans la merde, je peux dire. Docteur Ernesto, qu'est-ce que je dois faire pour mon lymphome? Je sais pas, 5 fruits et légumes par jour. Si c'est possible, un supplément salade dans votre kebab. Merci, docteur. Non, je sais pas. Je mélange tout, je sais, je mélange tout, l'audiovisuel, l'art, la médecine, je mélange tout. Mais c'est férié aujourd'hui, vous avez le temps de faire le tri, démerdez-vous. Et de toute façon, on va avoir la 5G en France bientôt, c'est génial. C'est génial. Qui n'a jamais rêvé de télécharger 16 gigas de porno dans le RERC? Parfois, ton voisin, il a pas envie de parler avec toi, t'es obligé de t'occuper. Mais la 5G, c'est bon, quoi. Maintenant, on l'installe partout dans le monde, puis on arrête pendant 10 ans, tu vois. Parce que là, dans 2 ans, il y a Apple qui va faire, oui, mais c'est la 6G. La 6G, ça, c'est la révolution qu'on attendait tous. Par contre, ça fonctionne pas sur l'iPhone 13, il faudra acheter l'iPhone 14. Il a 2 700 € plus 160 pour les nouveaux chargeurs et les nouveaux écouteurs. Putain, et ça dénonce, hein, t'as vu, quoi. Ça dénonce, on l'aurait pas dit, ça dénonce. En attendant, je suppose qu'il y a des ingénieurs qui sont déjà sur la 7G, c'est sûrement formidable, mais j'ai qu'un conseil à leur donner, un supplément salade dans le kebab. Bonne émission.
Merci, Guillaume. Maggie, la bande originale. Vous êtes bien dans la bande originale et vous serez encore mieux avec Marie-Flore. Ça s'appelle Tout ou Rien. Bon.
Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De toute façon, sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes. Y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin. Lâche-moi la main. On verra bien si ça se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux, c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal que de bien. Nous deux, c'était rien. Nous deux, c'était rien.
Marie-Flore, qui était venue d'ailleurs il y a 4 ans dans cette même bande originale chantée en live. Là, c'était Tout ou Rien. La bande originale, c'est celle de Sylvie Testu à l'affiche au théâtre Édouard VII de l'heureux stratagème de Marivaux. À propos justement, tiens, d'Internet et des clics et de la manière dont Alexis Le Rossignol expose des enfants à Internet, quel est votre rapport, vous, aux réseaux sociaux, à Internet et est-ce que vous interdisez vos enfants d'avoir des ordinateurs, des portables?
Non. Il y a un contrôle parental, bien sûr, mais non, parce qu'il y a quand même des choses qui sont super. Moi, par exemple, ma fille, elle a 11 followers, hein, mais elle a sa petite chaîne YouTube où elle montre un peu les dessins qu'elle fait, comment il faut maîtriser la gouache. C'est très mignon, c'est très joli, je trouve ça super. Du coup, elle fait appel à son imagination et toutes les semaines, elle veut poster quelque chose. Ça dure 152 heures, je ne sais pas qui l'a regardé en entier. Moi, je regarde partiellement. Mais elle aime bien.
Ouais.
Et pour mon fils, oui, c'est vrai que c'est plus du compliqué. Dès qu'ils deviennent ados, c'est plus compliqué. Justement, ils veulent regarder, je sais pas, un perroquet qui s'appelle Rocco, ils tombent forcément sur Cifredi. Donc là, il faut faire gaffe, quoi. C'est compliqué.
Faut rester vigilante.
Ouais, mais c'est toujours le pendant d'une chose qui est jolie, quoi. Et ça, il faut leur faire comprendre, dire, bah oui, tu vas tomber dessus, je suis pas flic. Donc c'est à moi de lui donner des outils en disant tu
non
te
mais vous êtes maman, c'est à vous
voilà.
Donner les limites.
Donc je donne les limites, ouais. Mais je ne peux pas être derrière tout le temps. Donc il y a un contrôle parental, mais aujourd'hui ça fait craquer n'importe quel téléphone. Enfin moi quand j'ai un problème sur mon ordi je l'appelle, donc c'est pas moi.
Et puis il regarde l'historique, puis il dit maman.
Donc, c'est vrai que je les fasse jamais.
Je laisse aller regarder
donc
les
j'ai intérêt hein. D'être clean. Hein. Si je ne sais même pas comment on les fasse.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça.
Sylvie Testu est notre invitée. Demandez à Alexis Rossignol, lui c'est Sylvie Testu est notre invitée. Elle est au théâtre. Édouard VII. Je voulais citer également Suzanne Clément, en plus de Roxane Durand, parce que je trouve que les femmes ont le beau rôle dans oui. Le jeu. Elles sont très présentes. Elles sont
elles sont mises à l'honneur. Ouais.
Ouais, exactement.
Bah oui, parce que c'est elles. En fait, le duel se passe entre elles deux. C'est elles deux qui mettent le problème.
Suzanne Clément et vous.
Voilà, en avant, la marquise, la comtesse, donc Suzanne et moi, et les deux hommes, en fait, finalement, font un duel, mais pas plus par ricochet. C'est-à-dire que eux deux seraient presque plus prêts à être alliés dans cette histoire. Si ce n'est que le chevalier, moi je l'appelle Don Corleone parce qu'il a un côté un peu, acteur de film américain, mafieux.
Côté, ouais,
il a un petit côté comme ça, quoi. Et il lui tape sur l'épaule, il dit, écoute, hein. On va pas s'en tenir rigueur, je suis plus fort que toi, quoi. C'est très clair. C'est alors qu'elles deux, elles sont plus dans l'intelligence et dans l'intrigue.
Et le courage, elles ont le courage.
Elles ont le courage. Et du coup, c'est vrai qu'on les voit plus et que c'est surtout elles qui sont. C'est là où je rejoins un peu ce que vous dites. Oui, c'est une pièce qui parle des femmes, qui a beaucoup de féminisme à l'intérieur, mais en même temps, non, pas tant que ça. C'est qu'à un moment, donc, ils trouvent que l'intelligence des femmes est parfois perfide.
Ouais.
Donc c'est ça qu'on met devant.
Est-ce que cette pièce de vous retrouver sur scène à faire rire le public, à s'habituer justement au rythme d'une scène comique, est une bonne surprise pour vous, parce qu'on vous a pas souvent vu dans des pièces de théâtre.
Ah oui. Bah, au début, il a même fallu que je sois ultra concentrée parce qu'en fait, les premiers rires, j'ai fait éclater derrière moi-même. Je suis sacrée. Je savais plus ce qu'il fallait faire. Je regardais la personne en face, je me disais, oh là, mon fils, ça part. Là, je sais plus comment on tient le truc.
C'est vrai que pourquoi on vous a jamais proposé de faire la rigolade puisque vous l'êtes dans la vie?
Mais c'est souvent, en fait, de nouveau un paradoxe. C'est souvent, les gens drôles dans les coulisses sont pas forcément les plus drôles face à une caméra.
J'oublie un détail important. Vous êtes une très bonne comédienne. Donc, à la limite, on peut pas se poser la question de savoir est-ce que vous êtes capable de jouer un rôle comique, un rôle dramatique, le rôle d'une folle, le rôle d'une ingénue.
Ben, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas.
C'est fou, non, mais c'est dingue.
Oui, les gens vous identifient comme ça. Moi, je fais partie des gens.
Vous avez quoi, la carte un peu trop chic, donc
je ne sais pas.
On lui demande pas de
non,
faire
je
du
ne
théâtre.
Sais pas parce que du coup, non. Au moment de la comtesse, on s'est posé la question de savoir si je n'étais pas trop roturière, par exemple.
C'est vrai. Ah, carrément.
Donc je fais quand même, un personnage populaire, quoi. Même si, voilà, on me donne souvent des personnages qui sont plus lourds, plus denses que celui que je suis en train de faire, quoi.
Et plus moi, sociale. C'est vrai.
Voilà. Moi, j'ai pas envie de m'interdire de choses, mais après, je ne choisis que dans ce qu'on me propose. Voilà.
Et donc là, vous êtes heureuse de faire rire.
Je suis ravie. À part ça, il me l'avait proposé, hein, je dois quand même le dire, il y a un peu plus de 10 ans, Ladislas Chola, cette pièce, et j'y étais pas allée.
Il y a 10 ans, le même metteur en scène vous a proposé la même pièce.
Oui.
Ah, il était têtu, lui, hein.
Oui, alors après, c'est pour cette saison, il m'avait proposé un autre texte que j'ai lu, que j'avais pas envie de jouer. Il m'a dit, écoute, souviens-toi, il y a 10 ans, je t'ai proposé ça, est-ce que tu veux bien la relire? Et je m'étais dit, Marivaux, peut-être ça va être trop empoulé, je ne sais pas si je vais réussir à me débarrasser du texte, enfin bref. Je l'ai relu, et j'ai dit, ça me tente, on va essayer. Mais je suis partie un peu avec le trac, hein, quand même, avec un stress, en me disant, est-ce que je vais réussir à faire, non pas raisonner des mots, mais des émotions. J'avais peur que le texte soit plus fort.
Ça fonctionne, ouais.
Et
c'est réussi.
Quand vous dites on va essayer, ça veut dire on fait un test ou alors parce que là vous êtes parti.
Non, j'ai dit oui. Si je rate, je rate à vue quoi.
Et subir comme ça tous les soirs 4 mois une pièce qu'on a plus envie de jouer, ça doit être quand même terrible.
Mais c'est pour ça que j'en fais une tous les 10 ans quoi. Il faut être sûr.
On va reparler évidemment de cette pièce au théâtre Édouard VII, l'heureux stratagème avec Sylvie Testu. Mais Sylvie écoute de la musique, par exemple en 89.
On est très reggae aujourd'hui.
Prêt.
C'est vrai, tiens.
Alpha Blondie, vous avez quelles images en réécoutant cette musique? Vous voyez où, comment, avec qui?
Je me vois avec mes potes. Moi, j'habitais les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.
À Lyon, oui.
Voilà, c'était les premiers moments où on avait un peu le droit de sortir. On écoutait Alpha Blondie à fond. On faisait ouh dans toute la rue. On était une petite troupe un peu cool, quoi.
Et en 89, vous venez à Paris.
Voilà.
Vous vous inscrivez en fac d'histoire parce que c'est la discipline peut-être la plus
large.
C'est large.
C'est un non-choix.
Ouais.
Voilà. Justement, parler de portes à ne pas refermer, j'avais envie de pas du tout enfermer. Je ne savais pas lesquelles j'ouvrais, mais je ne voulais pas fermer les autres.
Ouais, c'est une histoire d'avoir une carte d'étudiante, d'être inscrite. Ça rassure un peu, ça.
Oui, ça rassure. Et puis, après, on peut choisir différentes voies. Ouais. C'est pas non plus une voie de garage, hein, l'histoire.
Non, bien sûr.
Donc, voilà, je voulais pas faire médecine, ça je le savais. Je voulais pas faire de droit, je le savais. Je voulais pas faire de maths. Bon, moi, je me suis dit, l'histoire, au final, ça parle des êtres humains, c'est bien. J'avais quelque part au fond de ma tête, un jour peut-être je vais essayer de faire du théâtre, on verra, mais bon, c'était compliqué.
Ouais, et vous arrivez à vous inscrire au cours Florent moyennant des petits boulots qui font que vous payez pas l'inscription en entier quoi.
Voilà, vrai. Non mais surtout ils ont été très aimables, ils m'ont accueilli à la classe libre qui est une classe non payante.
D'accord.
Du coup j'ai pu passer le conservatoire, mais j'avais d'abord commencé à tourner.
Il faut préciser qu'il y a deux cours Florent, celui qui est payant très cher
pour les mauvais,
très cher, et
la classique pour les bons,
et enfin pour les mauvais, pour ceux qui n'ont pas été choisis. Et ceux qui sont choisis, on dit ok, vous êtes tellement bon que vous, c'est pas la peine de payer, on va travailler ensemble. C'est comme ça que ça se passe, hein.
Je sais pas si c'est toujours les meilleurs, bah, mais bon, on va dire ça comme ça.
Dans les mauvais, parce que je paye. En fait, la classe libre, il y a des examens, enfin des tests, des auditions en janvier.
Oui. Voilà.
Donc, entre septembre et janvier, tout le monde est un peu en tronc commun. Quoi.
Non, mais c'est ce que j'appelle la qualité. C'est-à-dire que les tests, justement, c'est pour déceler ceux qui seraient peut-être des perles rares, de dire, exactement. Ok, vous...
Ils en choisissent une dizaine, quinzaine. Hein.
Ouais, peut-être.
Mais vous avez commencé déjà à tourner au préalable.
Oui, en fait, alors à Lyon, moi, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du théâtre. Genre, j'étais le répétiteur, moi, à l'époque. J'avais fait quelques cours avec eux. Bon, de nouveau, c'était beaucoup d'argent. Bon, bref, voilà. Et en arrivant à Paris, j'ai deux, trois amis.
Pardon, c'est quand même le nerf de la guerre.
Ouais, ouais.
Bah si.
Oui, c'est vrai que mais on s'en sort quand même. On peut y arriver.
Ouais, oui.
Voilà.
C'est bien de le dire.
C'est vrai que sans être trop misérabiliste, c'est beaucoup d'argent pour une mère seule qui a élevé trois gamines. On va dire ça comme ça, voilà. Dont une de ses enfants va habiter Paris, ce qui est terrible.
C'est une folie, ouais.
Donc je ne pouvais pas en plus demander.
Le coût de la vie est en dingue en plus.
La folie.
Ouais.
Donc moi j'ai fait un peu beaucoup de petits boulots quand même. Moi j'étais serveuse la plupart du temps. J'ai fait, vous savez, des enquêtes au téléphone, un peu tout quoi. J'ai fait ouvreuse à Roland-Garros aussi.
Bien.
Un peu tout. Ouais, ouais, ouais. C'était en patin roulette à l'époque.
C'est pas vrai.
Oui.
Sur la terre battue, comment ça roule?
Non, pour placer les gens.
Ah, d'accord.
Non.
Pas pour jouer.
Non, je ramassais pas les balles.
Est-ce qu'on apprend de tous ces petits jobs-là? Est-ce qu'on observe justement? Est-ce qu'on apprend pour être comédienne? Est-ce que ça sert de voir tous les métiers possibles et imaginables en peu de temps?
Oh, je pense que tout sert, de toute façon. C'est en fait, nous, on ne retranscrit que la vie. Quand on est acteur, on n'apprend pas à faire les choses. On apprend pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça marche pas quand vous tapez avec tous vos doigts en même temps sur un clavier? C'est qu'on comprend que vous n'avez jamais tapé sur un clavier. Donc si vous n'avez jamais tapé sur un clavier, autant écrire une petite lettre, vite fait, comme ça.
C'est ça.
Donc tout sert, au final. Et donc voilà, en fait, pour finir, pour répondre à la question, un de mes amis avait une audition chez un agent. Bon, quand on a 18 ans, enfin voilà, ça se passait plutôt pas mal physiquement pour moi. Bon, elle a dit, je peux prendre les deux. Donc je suis entrée chez un agent qui m'a fait faire un film. Et voilà, j'ai adoré. Donc je me suis inscrite au cours Florent qui préparait au conservatoire. Et je m'étais dit, si je n'ai pas le conservatoire, j'arrêterai. Voilà. Et je l'ai eu, alors je suis restée.
Et comment arrive le film allemand?
Ben voilà, justement sur cette première audition chez un agent qui est au courant d'un film franco-allemand.
Au-delà du silence.
Je vais à l'audition, je suis choisie, très bien. Et il y a un acteur allemand et moi. Et finalement, la production française décide de se retirer du film. Et le réalisateur m'a gardé. Je me suis retrouvée actrice principale d'un film allemand.
Il faut, voilà, il faut dire que quand il y a des coproductions franco-allemandes, chacun apporte entre guillemets une partie du soit de la technique, soit du plateau artistique.
Voilà.
Et si la coproduction tombe à l'eau, normalement les comédiens partent avec.
Exactement.
Il ne reste pas. Là, il vous a gardé.
Il m'a gardé.
Parce que vous parliez allemand ?
Non,
non.
Moi, j'avais pas fait d'allemand, non. Non, j'avais fait chinois, moi, carrément.
Et donc, vous avez joué en français devant un acteur allemand.
En fait, ça se passait pendant la période napoléonienne, ce qui à l'époque était à la mode, en fait, de parler allemand, russe, français, le français étant une langue très chic
européenne
à l'époque. Ouais. Donc moi, j'avais quelques phrases d'allemand, donc on m'avait donné un coach. Et sinon, je parle en français.
D'accord.
Et eux parlent en allemand, ouais.
C'est la même chose qui est arrivée à Pétain, hein.
Quand, 80... non, c'était pas la même période. En 99, Sylvie Testu, écoutez.
Mais toujours ça, on est obligé.
Culte. Qu'est-ce que c'est bon ça?
C'est un. Ah ouais.
David Bowie, Starman, c'est votre artiste préféré de tous?
Oui, parce que j'aime tout. J'aime sa musique, j'aime.
Surtout, il a jamais fait deux fois la même chose, en plus.
Oui, il a jamais. Oui, Schellnagger, tout ça. Enfin,
c'est ça.
J'aime le type, j'aime sa voix qui parfois part dans ses chansons. Souvent, à la fin, on se dit, oh, il a la limite, il est on the edge, quoi. Et j'adore ça. Je trouve qu'il a une élégance folle. Et que quelque part.
Sexy aussi.
Ouais, puis c'est un des premiers artistes où j'ai identifié qui disait, je te donne le droit de penser ce que tu veux de moi. C'est comme ça. Il n'a jamais forcé le regard de l'autre, je trouve. Et c'est une grande élégance.
Il a même provoqué aussi le jugement ou les préjugés.
Oui.
Il était dans la provocation.
Il était dans la provocation.
Mais la provocation artistique,
mais
pas simplement pour le.
Voilà, pas pour
le plaisir de choquer.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de volontarisme là derrière et j'aime bien ça, je trouve.
Pour l'anecdote, on va pas parler de notre vie en permanence, mais hier soir, quand j'ai eu le plaisir d'aller vous saluer dans vos loges, vous m'avez présenté l'assistant de.
Stardust.
L'assistant de Ladis Acholo, Eric, je crois, de mémoire.
Chola.
Cholo.
Non, mais c'est.
Cholo. Non, mais au bout du roman, excusez-moi.
C'est très bien.
Tu peux parler, toi, avec l'Orange Bloc.
T'avais un partout, c'est bon, continue.
Et donc, vous l'avez présenté en disant voilà Ziggy.
Il lui ressemble ou pas?
À David Bowie?
Mais un peu.
Non, vous avez pas dit Ziggy, vous avez dit Stardust.
Stardust, ouais. Mais un peu. J'étais fascinée.
Il est beau gosse.
Il est très long, très blond, et voilà, et j'ai son cadeau de première d'ailleurs. Je suis allée acheter une assiette sublime dans laquelle il y avait une photo de David Bowie en Stardust, comme ça.
Une assiette David Bowie en cadeau?
Mais ouais.
On trouve ça où?
Au bon marché.
Ah ouais. Ah, c'est la Kionop des camemberts, hein. Rappelons-le.
C'est important.
C'est important d'avoir si vite Testu comme copine.
Attention,
hein.
C'est une assiette vide poche, ça n'est pas une assiette dans laquelle on doit se nourrir.
Pardon.
C'est une assiette à soupe.
Oui, comment ça s'appelle? C'est pas une assiette, c'est une coupelle, quoi.
Vide poche.
Il est en forme d'assiette quand même, malgré tout.
D'accord.
Il est rond, quoi.
On est en 99. On vous a quitté avec ce premier film allemand. Vous avez fait une grosse carrière en Allemagne au point que, en France, on ne vous connaissait pas.
Oui.
Vous étiez même sur le point de vous installer définitivement en Allemagne, d'acheter un appartement. Quand on vous a appelé pour un scénario en France?
Voilà, c'est ça. Bah, j'étais en train d'acheter un appartement en Allemagne. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, je vais devenir une actrice allemande. En France, on ne me propose rien, c'est comme ça. Et puis Berlin, finalement, ça me plaisait bien. Je commençais à avoir plein de potes. Et puis surtout, on s'intéressait à moi, quoi. Et on m'a proposé Carnaval. Donc Thomas Vincent faisait un casting, mais là de nouveau c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de chance. C'est pas toujours les meilleurs qui arrivent. C'est que il avait auditionné tout Paris et moi il n'arrivait pas à m'auditionner parce que j'étais tout le temps à Berlin. Je suis la dernière qu'il ait vue et je pense qu'il devait en avoir enfin réussi. Je la prends. Oh bah elle est pas mal, tu vas prendre celle-ci.
En 2003, Sylvie Testu, vous écoutiez. J'aime bien votre BO.
Ah, c'est bien.
Ah, elle va bien.
Soul Tambourine, Betty Lavette, on est en 2003, Leïla.
Et on passe à l'écriture avec un premier roman, Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir, un premier roman autobiographique. Vous racontez que vous n'étiez pas du tout une élève, une enfant qui écrivait un journal intime ou qui avait une production écrite. Comment on en vient à l'écriture alors, à l'âge adulte ?
Moi j'y suis venue par l'ennui. C'est-à-dire que quand on tourne, on est souvent dans des hôtels un peu, bon voilà. Là j'étais dans un hôtel un peu chic où il y avait un casino, il y avait un golf. Alors ni je vais au casino, ni j'aime le golf. Bon, toute l'équipe allait golfer tout le week-end. J'étais pendant 48 heures toute seule dans ma chambre d'hôtel. Et c'était mon premier ordinateur. Et je me suis mise à raconter un peu, pas pour faire un livre, à raconter mes journées. Enfin, c'est exacerber les relations sur les plateaux. Oui. Pour un bas filé, tout le monde devient fou. Enfin, on a l'impression que la Tour Eiffel s'est effondrée. Enfin voilà. Mais on en a besoin, nous. Puisque sans ça, on peut pas tourner. Mais parfois, c'est dérisoire. Et donc, je m'amusais à faire ça. Puis, je les envoyais à mes potes à Paris. Et puis, un jour, c'était Marine Sell, à l'époque, qui était en charge de Pauvert, des éditions Pauvert, qui lit ça et qui me dit, si tu développes, je t'édite. Et ça m'a plu, le challenge, et je l'ai fait. Et au final, j'ai adoré ça.
Est-ce que vous ressentez... Oui, absolument. Est-ce que vous ressentez auteur aujourd'hui ? Ce que vous dites, moi, je suis actrice, auteur.
Oui, je suis auteur, mais encore une fois, je n'ai pas envie de faire de la littérature. Je ne ferai jamais un roman. J'ai envie de raconter les choses comme je les vois, moi, avec un détail où je me dis, je suis sûre que tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a noté. Mm-hmm. Je vais le mettre devant. Parce qu'en fait, ce qui me plaît...
Ça, c'est la littérature.
Oui, non, mais la littérature, il y a aussi un moment... chaque bouquin commence comme ça. J'écris beaucoup trop de pages, et ensuite, je le réduis. Parce qu'on se fait plaisir aussi dans la littérature à décrire une chose qu'on a trouvée belle. Mais bon, ça intéresse personne.
Oui, mais c'est faire ressentir aux gens des choses qu'ils ressentent eux-mêmes sans s'en rendre compte.
Oui,
ce qui est propre de toute forme d'art,
que je
soit la peinture, la sculpture.
Moi, en fait, ce que je veux, c'est enlever au maximum, justement, l'écrit pour qu'on entende le texte. C'est comme si j'invitais quelqu'un, je dis, tiens, on va passer une heure ensemble, je vais te raconter deux, trois conneries que j'ai vues. Pas plus que ça. Et ça, c'est un travail assez difficile, au final.
On va continuer de parler avec Sylvie Testu, qui est notre invitée, qui est à l'affiche, je rappelle, au théâtre Édouard VII de l'heureux stratagème de Marivaux. Cécile Guéret, bonjour Cécile.
Bonjour.
On se sent aidé ici. Vous êtes journaliste spécialisée en psychothérapie et thérapeute gestalt.
Aïe, 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 bravo. C'est imprononçable. Gestalt.
Ah, c'est encore de l'allemand. C'est encore de l'allemand, très bien. C'est une approche de l'individu, c'est ça expliquez-nous cette approche.
Oui, c'est une psychothérapie. Une psychothérapie dans laquelle on regarde la manière dont la personne est en relation avec son environnement. Donc son environnement, c'est les personnes qui l'entourent, c'est l'environnement au sens large, hein, ça peut être la nature, l'environnement social, voilà.
Physique,
voilà. Et dans la séance de thérapie, c'est le psychothérapeute, donc on travaille beaucoup sur la relation entre le patient et le thérapeute.
Alors, pour prendre l'un des axes, parce qu'il y a plusieurs prismes dans la pièce de Marivaux, l'un des axes, c'est autour de la reconquête de l'ex, et puis on fait tout pour le ou la reconquérir. Est-ce que c'est une bonne idée d'abord de retourner vers son ex ?
C'est une bonne idée si on l'aime. Je pense que c'est un petit peu un préalable.
Il faut être deux pour l'aimer.
Exactement, voilà, si on a envie de refaire quelque chose ensemble. Ce qu'il y a dans le fait de renouer avec un ex, à la fois il y a du familier, donc ça c'est sécurisant.
On connaît le terrain.
On se connaît bien, on a déjà vécu des choses ensemble, donc il peut y avoir de la complicité. La difficulté, et peut-être le piège même, c'est que du coup, justement, on se connaît bien et peut-être on croit un peu trop connaître l'autre. Peut-être on croit un peu trop se connaître dans la relation avec l'autre. Et donc la difficulté, c'est de laisser cette relation-là ouverte à de la curiosité sur l'autre, à de l'inattendu, à quelque chose de nouveau qui pourra advenir entre nous.
Oui, le paradoxe d'ailleurs, et c'est ce qui se passe aussi au début de la pièce, c'est-à-dire l'excitation, l'envie de découvrir ou de séduire quelqu'un de nouveau et de savoir si on plaît encore, si un amour peut naître comme ça d'une petite étincelle. Le paradoxe, c'est de retourner avec un ex, c'est exactement l'inverse. On connaît tout par cœur, que ce soit les qualités, les défauts, et même dès qu'il peut y avoir un petit incident, ça devient quelque chose d'énorme parce que je savais. Mais que oui. Ça allait recommencer.
Et c'est l'énorme piège. Mais en fait, quand vous dites on connaît tout par cœur, non, on croit tout connaître de l'autre. Et ça, c'est le piège, mais même de tous les couples, que ce soit un ex ou pas. C'est qu'on croit tellement connaître l'autre et on croit que l'autre nous connaît tellement bien que finalement, on se coupe complètement de la nouveauté.
Il n'y a plus de surprise.
Voilà, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de nouveauté. Mais du coup, le couple, il n'est pas vraiment vivant. C'est ça qui est dommage.
Si vite et sûr, j'ai vu que vous vouliez parler.
Oui, je disais, tout à l'heure, on se disait, le fait d'être infidèle, c'est aussi quelque part dans un premier lieu, se tromper soi-même, sortir justement d'un carcan. Dans ce que vous dites là, j'entends que il y a un peu de ça.
C'est-à-dire quand vous dites... Un fidèle, c'est pas se tromper soi-même, c'est penser.
Il y a quelque part, je pense, sortir de sa vie, surtout. Sa vie à soi. En fait, on se comporte beaucoup comme les autres attendent de nous qu'on se comporte. C'est très clair ce que j'aime bien.
Ouais, c'est bon. Oui, ça passe.
Et en fait, c'est rapide. Hein.
On se sent jamais plus libre qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, non? Il n'attend pas qu'on se... on se connaît pas, vous comportez bien de la manière dont vous voulez. Si votre mère est là, quelqu'un que vous connaissez très bien, il y a quelque part une injonction de se comporter comme on attend de vous que vous vous comportiez. Mmh. Et dans le tromper, je trouve qu'il y a ça qui saute.
Ouais, c'est la découverte.
Je suis pas en train de faire l'apologie de la fidélité.
Cécile,
si un peu. Hein.
Que dit la psychothérapeute?
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et en même temps, pour certaines personnes, justement, cette liberté-là, elle peut être terrorisante, parce que c'est extrêmement difficile de se définir, de dire qui on est sous le regard de l'autre. Et donc, pour certains, justement, d'être dans un terrain inconnu, d'être avec des gens qu'on connaît bien et à qui on n'a pas encore approuvé qui on est, c'est extrêmement sécurisant, c'est réconfortant, il n'y a pas de danger. Et c'est ça aussi qui est enfermant, c'est que du coup, nous-mêmes, on ne se renouvelle pas.
Et alors, se servir de la jalousie comme d'un moteur?
Bonne ou mauvaise idée? Diagnostic.
Très bonne idée.
Non, c'est vrai.
Bah, en fait, je dirais, ça dépend du couple, ça dépend de soi, mais je crois que dans ces stratagèmes-là, ça dépend aussi du couple qu'on a envie de construire. C'est-à-dire que si on construit un couple où la jalousie ou la manipulation, ou en tout cas l'envie de titiller l'autre est le moteur du couple, pourquoi pas, mais
ça peut être fatigant quand même.
Ça peut être fatigant. Ouais. On n'est peut-être pas dans une relation aussi authentique que celle qu'on aimerait. C'est effectivement pas reposant. Donc ça dépend aussi. Puis ça peut être des périodes aussi dans le couple. Il y a des moments où on peut être comme ça à un moment du couple. Et puis on change, rien n'est figé. Et ça peut se transformer dans la relation à l'autre.
Ouais, faire ressentir à l'autre que c'est pas gagné pour la vie, quoi.
Ça c'est pas pareil.
Qui se méfie? Non mais si.
Non, ça c'est pas pareil.
Si, d'une certaine forme.
Non, de là, tu as des messages à faire passer.
Non, mais pas du tout. Non, mais tout va bien. Mais donner la sensation
de dire que rien n'est acquis.
Pas montrer à l'autre rien, mais voir que l'autre se rende compte que finalement la personne avec laquelle il vit, elle est aimable, elle est appréciable par d'autres, ça lui donne quand même la sensation qu'il est avec quelqu'un de précieux, et donc il doit y faire attention.
Oui, mais ce qui est terrible, c'est d'avoir besoin de rendre jaloux pour ça.
Non, mais pas besoin de rendre jaloux, il suffit qu'il regarde.
Et de l'informer. Jaloux,
mais pourquoi faudrait-il lui mettre un tiers?
Il devrait faire des tutoriels sur YouTube.
Il y a de l'offre, hein.
En fait, elle dit jalousie, mais ça veut dire alerte, c'est pas une jalousie maladie. Si c'est garder la personne en alerte.
Oui, mais on peut aussi
aujourd'hui,
regarder.
J'ai mis des godasses, mais pourquoi tu sors? Oui, je vais manger avec une copine. Et stop.
Ouais.
Oh, les manipulatrices, mais j'en rêve.
Ouais, non, c'est pas très fair de faire ça. En tout cas, la lumière est faite sur des siècles d'oppression masculine, et ça, on est conscient que ça arrive un jour.
Tout à l'heure, les deux femmes présentes autour de cette table, Sylvie et Leïla, ont dit penser à tromper, c'est tromper. Que dites-vous, Cécile?
Effectivement, ça dépend des gens. Je peux entendre
Arrêtez
ça.
Arrêtez de dire ça dépend. Non, mais prenez une décision. Donnez une réponse.
Parce que je peux autant entendre ça pour les personnes que j'accompagne en psychothérapie. Rien que d'y penser, rien que d'avoir l'idée d'envie de plaire à quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper. Par ailleurs, j'entends aussi des personnes me dire, je suis allée au sex shop ou au peep show, mais ça, c'est pas tromper. Donc, je pense qu'on a chacun nos limites.
C'est vrai, c'est une boutique.
Voilà, donc, je pense que ça dépend des gens. Et c'est que sexuel. C'est que sexuel, c'est pas amoureux.
C'est pas sentimental,
oui.
Mais en fait, c'est vraiment chacun en fonction de soi, en fonction de son propre cadre, et puis en fonction aussi de ce qu'on a convenu avec l'autre. Hein. C'est-à-dire que dans un couple, on est deux, donc on le définit ensemble.
Fois où j'ai voulu que Nagui meure, et au fond, non, je suis pas content qu'il soit là.
Ça finira par arriver, t'inquiète pas.
Ouais.
Les réseaux sociaux viennent plutôt mettre de l'huile sur le feu dans les relations sentimentales aujourd'hui?
Oui, ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que on est quand même dans une image assez idéalisée de soi. On est dans une mise en scène de soi. Et ça, du coup, on est un peu dans le faux. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on vit. Il n'y a pas d'authenticité. Et c'est ça qui est compliqué, du coup, dans la relation amoureuse après. C'est que c'est comme si on loupait un peu une marche. C'est-à-dire qu'on se montre un peu au top de soi-même sur les réseaux sociaux. Enfin, je dis les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi sa fiche de présentation sur les applis ou les sites de rencontres. Hein. Ouais. C'est un petit peu la même chose. On se montre au top de soi,
sous son meilleur jour.
Mais du coup, la rencontre avec l'autre, ça peut faire un peu l'effet d'un vertige, parce qu'on n'est jamais aussi drôle, que quand on chatte sur les réseaux sociaux. On n'est jamais aussi beau que sur sa photo de profil.
On n'a jamais le filtre en permanence.
Et voilà, on n'a jamais le filtre en permanence sur soi. Donc c'est un décalage, mais en même temps, c'est ça qui est beau, parce que c'est là qu'on rencontre compte la vérité de l'autre, son authenticité, ses failles et ce qui est intéressant chez la personne.
C'est pareil quand on se rend compte dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est rare quand même qu'on se montre sous son plus mauvais jour rendez-vous.
Sauf que sur les réseaux, tu racontes vraiment des histoires. Tu peux être totalement mytho aussi certains profils.
Tu en parles bien, je trouve.
À côté de la plaque. Oh, moi, tu sais, moi, je suis un livre ouvert. Cécile Guéret, merci d'être venue.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Merci mille fois. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, vous allez nous parler notamment de la corrida.
Oui, la corrida, c'est cette espèce d'énorme soirée tapas lors de laquelle la chaîne du froid n'est pas respectée, puisqu'on y découpe le bestiau vivant au lieu de l'endormir, puis le congeler comme on l'a fait pour Gérard Collomb. Un projet de loi propose d'interdire la corrida aux mineurs, Nagui, ce qui ne change rien. Il ne va pas y avoir de version adulte de la corrida avec une scène de sexe à la fin, bien sûr. C'est donc une mesure inutile.
On en reparle après les infos de midi. Oui. Bonjour, c'est reparti pour la bande originale sur France Inter avec toute l'équipe et notre invité du jour, Sylvie Testu, qui rayonne dans L'Heureux Stratagème, pièce de Marivaux qui se passe au théâtre Édouard VII. À l'affiche d'un Marivaux, c'est la première fois qu'on peut dire Sylvie Testu à l'affiche d'un Marivaux. Vous n'avez jamais joué de Marivaux ?
Non. Jamais, et puis je fais pas beaucoup de théâtre non plus, et là je suis folle de ce texte, quoi. Je l'adore, j'ai mis beaucoup de temps à le maîtriser, c'est un peu comme une partition de piano un peu compliquée, quoi. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est vraiment, ça porte.
C'est une partition de piano, mais surtout quand on est 8 sur scène, c'est un véritable orchestre philharmonique où chacun doit, dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ses répliques, jouer avec les autres, mais au sens encore plus poussé du terme, parce que il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des surprises, enfin il faut pas.
Et puis chacun, en fait,
il y a des marches, il y a des marches d'escalier avec des talons.
Il y a des marches d'escalier avec des talons, et qui, je dois quand même le dire, sont plus petites que mes pieds.
Ça, c'est drôle.
C'est pas une blague, non?
Ça, c'est très drôle.
C'est une blague.
L'ai-je bien descendu?
De profil. En essayant de garder un peu de style.
Mais ça aide à la démarche, je trouve.
Très bien. Ah, mais oui, on en a fait quelque chose. Mais voilà, en fait, c'est ça. Il faut faire une force de tout dans ces cas-là. Je me souviens, moi, j'avais fait un oratorio, j'avais fait Jeannot Buchet. Il y avait tous les musiciens sous la scène, ça tremblait. Et au début, je me disais, oh là là, je serai jamais aussi forte qu'eux. Et en fait, il ne faut pas se battre contre, il faut se laisser porter. Et c'était un truc formidable. À un moment, je me disais, oh, je ne pourrais plus jamais jouer sans la musique. Et là, maintenant, c'est l'inverse. C'est. Le texte classique, je me dis, ah bah, à quoi bon jouer un contemporain? Ouais, salut, passe-moi le sel, ouais, fais ça. J'ai l'impression que je pourrais pas.
Parce que d'un pourtant, coup, c'est dommage, c'était bien ce que vous venez de faire. Salut, passe-moi le sel,
attendez,
vous le tenez.
J'ai même pas encore dit que j'avais salé mon steak.
Ah bah non, là.
Ouais, j'ai salé mon steak, ça y est.
Yeah, c'est bien ça aussi, ou pas? Oh là là.
Souffert. C'est
vite et sûr.
Moi, je préférais Jeannot Buchet, hein, vraiment, c'était Scarpita, en plus, à la mise en scène, c'était...
L'Heureux Stratagème, Ladislas Chola fait la mise en scène, Sylvie Testu est sur scène, ils sont 8 sur scène, on en reparle tout à l'heure, mais d'abord, voici Tanguy Passion. Tanguy, c'est dur de changer ses habitudes.
Oui, parce que la vie est une chienne. À n'importe quel moment, on peut claquer. On est là à regarder plus belle la vie quand soudain, on a une énorme douleur au cœur. Et on a juste le temps de crier à son conjoint « Ma grosse loutre, rends-toi utile pour une fois zap sur Arte pour que la famille pense que j'étais pas si con. » La vie est fragile. Et pour ne pas y penser, on fait comme si on allait durer aussi longtemps qu'une chemise à jabot de 1830 qui aurait été rachetée chez Troc 3000 par Laurent Voulzy. Donc, on se construit un assemblage d'habitudes. Un seul sucre dans le café, la pratique du ping-pong, l'achat de boxeurs plutôt que de slip, ce qui est compréhensible car on s'y sent tellement mieux, nous les hommes, en liberté. Quand je porte un boxeur, j'ai l'impression d'être Nelson Mandela en 90 quand on l'a laissé sortir de tôle. Ça rassure les habitudes. Regardez en Corée du Nord, chaque chef d'État est là pour 52 ans. Et bah ça apaise la population, qui peut mourir de faim en toute sérénité. Certains clams dans la position du lotus. On les retrouve 2 mois après, tout sec, impossible de les replier. Ce qui fait qu'en Corée du Nord, tous les cercueils sont de forme carrée. Moi qui suis un rétrograde coinsos. Le truc le plus rock que j'ai fait, c'est signer Inter après votre coup de fil, Nagui, me suppliant, je cite, de rebooster une tranche clairement en fin de parcours. Albert Algou, avez-vous ajouté dans l'émission depuis 34 ans, tous ceux avec qui il a commencé sont morts de vieillesse. Eh ben, je suis un homme d'habitude. Si c'était moi, on aurait le même invité tous les jours. Sylvie Testu, par exemple, qui est agréable et propre. On a plaisir à faire une chronique à ses côtés, d'autant qu'elle en comprend le contenu, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais non, il Il faut que chaque jour on change, on papillonne, dans un grand écart que seule une star du X ayant subi une ablation des adducteurs pourrait se permettre. Philippe Lelouch, Hubert Reeves, Kev Adams, Philippe Delerme. Mais on serait mieux en Corée du Nord parce qu'il n'y a qu'un invité possible, Kim Jong-un. Tout est plus beau en Corée du Nord. Tiens, prenez la corrida. Ce jeu SM qui implique un monsieur jamais relooké par Christina Cordula, si bien qu'il porte des leggings moulants et des chaussettes roses, c'est atroce. On a l'impression de voir Michel Sapin au gymnase club. Et un taureau. Animal qui, a priori, prend peu de plaisir à se faire charcuter, car le taureau préfère bouffer de l'herbe nue dans un pré. Il a la même vie qu'Émeric Caron quand il se lâche un peu. On n'a jamais vu de taureau allant de son plein gré dans un donjon dire à la patronne Marie-Vonne, j'espère que ce soir il y a de beaux salauds, parce que j'ai envie de m'en prendre plein la teuté. Hein, on part sur un exemple de taureau qui parlerait de verlan, hein, comme nos jeunes qui souvent sentent le taureau. Non, le taureau est un être peinard qui, tel José Bové, fait respirer ses poils dans la nature. La corrida est donc amorale, car on ne tue pas quelqu'un qui n'a rien demandé, à part Francis Holm ou les toréadors qui, eux, font ça. Mais on garde la corrida pour trois raisons. Un, parce que sinon la chanson de Francis Cabrel ne voudra plus rien dire, et le climax de ses concerts, ce sera la Dame de Haute-Savoie reprise à la flûte à bec. Deux, parce que sinon, dans les arènes de Nîmes, il n'y aura plus que les soirées de la tournée Star 80. Or, Sabrina commence à avoir les seins qui tombent. Trois, parce que c'est une tradition, autrement dit, une habitude.
Donc, d'après vous, on ne peut plus interdire la corrida.
Mais non, les gens ne voudront jamais. Dans les villes où ça se pratique, ils ont toujours fait ça. C'est comme si vous interdisiez le trading à Londres ou la 8-6 à Rennes. Donc, une députée, Samantha Casbonne, va présenter à l'Assemblée une loi proposant d'interdire la corrida aux mineurs. Comme ça, le taureau se fera toujours défoncer, mais devant des adultes, qui souvent est le sésame pour une soirée réussie. Hein, Madame Casbonne dit que la corrida est un spectacle violent. Donc, au lieu de l'interdire simplement, parce qu'il y a bien assez de violence dans notre société, je pense à la programmation musicale de Chérie FM, on va juste l'interdire aux mineurs. Ce qui fait qu'on a l'impression que ça bouge, mais ça bouge pas. On a tous connu ça un samedi soir après avoir bu trop d'alcool. Autre exemple, Air France. Ils ont des vols intérieurs. Hein. France-France. Alors que notre pays, sur un planisphère, est aussi petit que Sumo, le bichon des Chirac, quand sur les photos d'archives, on le voyait au pied de 100 mètres, en train de faire l'amour par l'anus au gland de ses mocassins. La sagesse, celle par exemple de Confucius ou de Valéry Giscard d'Estaing, qui a bien connu là-haut-dessous, serait de se dire, l'avion ça pollue, on y mange mal et on y projette des films de Philippe Lachaud, ça va, on annule. Et pour aller à Dijon, tu prends tes pieds. Mais non, Air France a annoncé qu'à partir de 2020, ses vols seront compensés en carbone. C'est-à-dire qu'ils vont planter 3 arbres et protéger la biodiversité. Pendant que vous prendrez l'avion, un employé au sol fera du bouche-à-bouche à une grenouille pour pas qu'elle meure. La compensation carbone, c'est l'arnaque montée par ceux qui détruisent la planète pour se faire passer pour des écolos. Un vol Paris-Dubaï, pas de souci. Pendant que je me fais retirer le huc, Air France monte Compiègne 2, la réplique de la forêt de Compiègne, avec encore plus de lapins et de satyres en impair. Mais là aussi, on a l'habitude de prendre l'avion pour un oui ou un non. Mais il va falloir la perdre. Si on a pollué, la nature, elle s'en fout qu'on essaye de se racheter. Faites un Paris-Nice en avion, après vous allez vous balader dans les bois, les renards, ils vous crachent à la gueule. Vous croisez une perdrix qui vous dit « Enfoiré !» Bref, nos habitudes nous perdent. Supprimons la corrida, les lignes intérieures, faisons un monde neuf dans lequel on tentera des choses. D'ailleurs, lundi, nous ne recevrons pas Sylvie Testu.
Merci.
Midi, la bande originale.
La bande originale de Sylvie Testu continue jusqu'à midi et demi, bien sûr. On se retrouve après Into the Surf. Ce sont les Falls sur Inter. We'll be right back. vous êtes bien dans la bande originale, celle de Sylvie Testu, à l'affiche au théâtre Édouard VII de l'heureux stratagème de Marivaux. Voici les questions concernant l'actualité culturelle en ce moment. Et peut-être, Sylvie, si vous avez envie de jouer avec nous, de trouver, vous êtes la bienvenue. Pour lutter contre le réchauffement justement de la planète, Tanguy vient d'en parler, quelle décision le chorégraphe et danseur Jérôme Bell a-t-il prise ?
Ne plus faire de tournée. En avion, justement.
Exactement. Ah ouais. Exactement. Ça rejoint ce qui est dit par Tanguy Pastureau. C'est un sujet de préoccupation, je parle aussi bien à l'actrice qu'à la maman. Sylvie Testu.
L'écologie.
Ouais.
Ça, oui, bah, là maintenant ça commence sérieusement. Et puis surtout, j'ai le devoir moi de transmission auprès de mes enfants. C'est-à-dire que le tri, les choses là, c'est vrai que ça les gonfle. Hein. Ils ont envie de mettre le plastique, les déchets et tout ça au même endroit parce que c'est un temps perdu pour eux. Et ça, petit à petit, ça fait son chemin. Pour l'avion, c'est vrai que de plus en plus, on commence à se poser des questions. Moi, personnellement, en plus, j'ai peur de l'avion. Donc, je vais vous dire un truc. Moi, je le prends, mieux je me porte. Et oui, je suis alertée. Alors, est-ce que je fais tout bien? J'en sais rien. Et je pense qu'on peut faire plus. Mais oui, je fais gaffe.
Mais il faut faire.
Il faut faire. J'ai plus de bouteilles plastiques chez moi, par exemple.
Est-ce que vous vous exprimez, vous êtes déjà exprimé politiquement? Est-ce que vous signez, par exemple, des pétitions? Est-ce que vous êtes engagé dans un combat particulier?
Alors, je ne suis pas engagée dans un combat particulier parce que le faire nécessiterait du temps et de l'investissement réel. Et j'aimerais faire un jour si jamais on me le demandait.
Pour le faire sérieusement et pas uniquement pour l'image.
Voilà, c'est ça. En revanche, oui, ça m'est arrivé de signer des pétitions, ça m'est arrivé de soutenir des gens, ça m'est arrivé, alors dans des termes moins sévères, hein, et de dire non, j'aime pas tellement cette personne, je ne voterai jamais pour cette personne. Je fais pas de tribune, quoi.
Après, il y a le choix des films. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était pour une super série sur Arte qui s'appelait Eden.
Voilà.
Il était question de camps de détention de migrants. Exactement. C'est une forme de...
Voilà. Il se trouve que là, moi en plus j'ai découvert que c'était des gens qui géraient
privés.
Des camps privés. Donc rien que ça m'a bouleversé. Je me suis dit, il y a quand même un type qui s'est dit, tiens,
business,
avec des camps de migrants, je vais me faire de l'argent. Déjà, ça m'a révolté sur le moment.
Clairement.
Il se trouve que ça fonctionne. Donc dans un deuxième temps, j'ai un peu avancé sur l'idée, mais au départ, j'ai dit, ah, tu me proposes donc de faire une horrible bonne femme, puisque c'était moi. Et finalement, c'est pas si horrible que ça. Mais au départ, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, il me propose un personnage affreux, quoi.
Sylvie Testu est au théâtre, donc dans cette pièce L'Heureux Stratagème, aux côtés de Suzanne Clément, Roxane Durand. J'insiste pour souligner le talent de ces actrices à vos côtés. Il y a également Jérôme Robard, et Simon Thomas, Eric Asmosino, et tout ça dans une mise en scène de Ladislas Chola. C'est au théâtre Édouard VII, c'est drôle, et puis ça donne à débattre et à discuter. Preuve en est la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous aviez une chose à retenir, Leïla, de cette pièce, ou de sa morale.
De sa morale, oh là là.
Je sais pas si c'est de morale d'ailleurs.
Mais non, bah que voilà, l'amour ça s'éprouve, voilà.
Oui, voilà.
Également,
hein. Cette apologie de l'adultère me dégoûte. Je conseille à tout le monde de rester chez soi et de se faire des rediffs de Julie Lescaut, c'est bien plus sain.
Albert, je dirais une pièce intemporelle. Il faut rappeler que Marivaux, il a inventé l'expression tomber amoureux et laisser parler son cœur. C'est Marivaux.
On disait pas tomber.
Non. On disait autre chose, mais tomber amoureux.
Toi qui vivais.
Être en amour, je crois, non?
Être en amour, voilà. Être en amour.
D'accord.
Tomber amoureux, c'est lui qui l'a inventé.
Qu'il y a des décorateurs un petit peu facétieux qui font des escaliers trop petits pour des pieds trop grands.
Tanguy Pastureau.
Que c'est impossible de passer après Albert Elgou qui a des anecdotes sur Marivaux, alors que moi, au pire, j'ai une citation d'Ophélie Winter en tête, donc je quitte cette émission.
Dieu t'a donné la foi,
voilà, exactement.
Alexis Rossignol.
Que Marivaux, c'est un peu de la télé-réalité du siècle passé, quoi.
C'est pas d'aujourd'hui aussi.
Il y en a un qui va étaler ses pensées maintenant, c'est Frédéric Siris.
Eh oui, en fait, c'est une chronique qui est un petit peu qui va répondre à celle de Tanguy, parce que figurez-vous que j'ai un rat qui vit dans mon compost, Nagui.
Ah bon?
Oui, et je vous promets que c'est pas une chanson de Zaz.
Au moins, il a de quoi manger.
Oui, j'ai un vrai rat. C'est-à-dire que vous en souvenez peut-être pas, mais il y a 122 chroniques de ça. Je vous ai dit que ma femme et moi, on avait acheté un composteur. Hein, parce que je sais que mes chroniques, c'est pas Game of Thrones, mais il y a un minimum de continuité quand même. Hein, vous pourriez faire un effort.
Il y a des valeurs, monsieur.
Il y a des valeurs, voilà. Je sais que Marina a un chien, je sais que Tom Villa a des MST. Donc je rappelle le principe du composteur. C'est un conteneur où on met tous les déchets organiques qui, après un processus de fermentation, donnent de l'engrais. Hein, c'est un petit peu comme le Parti des Républicains, mais pour les légumes. Bon, alors, je savais, ça m'est pas arrivé comme une surprise, que le compost pouvait attirer des bestioles, des mulots, des lombrics, des zadistes. Mais un rat? un putain de gros rat. C'est, il est énorme. Quand j'ai ouvert, je fais 1m80, 90 kilos. J'ai poussé le cri le moins viril de la création. J'étais... c'est un rat, il met au moins du 6 ans. Et tu sais que le rat qui vit dans ton compost, il est trop gros quand tu ouvres la porte et que tu te dis, bah, t'aurais pu frapper quand même. Depuis que je l'ai vu, je suis à deux doigts de le mettre dans la catégorie personne à charge quand je remplis ma déclaration d'impôt. Et puis, il ne gueule. Il ne gueule ce rat. Parce que là, c'est pas le rat mignon type Rémi dans Ratatouille qui monte sur ta tête pour faire de la cuisine. En plus, ouais, avec moi, vraiment, je peux rien faire. Dans une cuisine, je ne peux rien faire, j'ai même pas de cheveux. Il faut avoir vu le film, si on comprend pas. Là, mon rat, il a la tête de Philippe Echtebest qu'aurait goûté une mayonnaise avec des aliments périmés. On est sur du rat qui a vécu. Hein, mon rat, il a fait des soirées avec Benoît Magimel et Samina Seri. Hein. Mon rat, Joe Star, il lui dit oh, s'il te plaît, merci. C'est sûr, c'est sûr. Je suis sûr qu'il a tous ses copains. En plus, lui, il est content parce que techniquement, c'est la plus belle de ses vies. Mon compost, c'est un buffet bio à volonté. Techniquement, je suis devenu le serveur attitré du rat. Je suis sûr qu'il raconte à tous ses copains ouais, j'ai adopté un humain. J'en suis content. Et les autres, sûr, c'est sale quand même. En plus, ils sont méchants. Non, lui, il est bien élevé. Moi, j'ai toujours peur qu'un jour il me dise, il m'appelle pour dire, mais tu trouves pas que les épluchures de panier c'est dégueulasse, j'en veux plus. Il va demander autre chose au menu. Enfin, ça va être un truc de fou. Quand ma femme est tombée dessus, la tête qu'elle a fait. Et c'est drôle de voir un être humain passer en un centième de seconde, idéologiquement, de Nicolas Hulot à Donald Trump. Idéologiquement, il y a que Dupont-Aignan qui change de camp aussi vite. Je veux dire, sur le moment, elle aurait eu un jerrycan sous la main, elle lui foutait le feu au compost, à la maison des voisins aussi, dommage collatéral, on s'en fout, rien à foutre du bien-être animal. Hein. Les vidéos L214 dans les abattoirs, tu mets des rats à la place des petits veaux ou des poussins, mais tout le monde s'en bat la race. Hein. Elle est rentrée, elle s'est calmée, elle tremblait comme ça, et puis elle a fait ce que tout le monde fait, confronté à un problème, surtout quand tu te dis écolo et que tu dois vivre avec tes convictions. Elle a regardé sur Internet. Et alors, Internet, c'est pratique parce que tu trouves pas forcément des réponses. Par contre, tu te poses beaucoup plus de questions. Parce que t'as deux écoles. Parmi les écolos qui ont un compost, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « Laissez-les vivre ». Les rats font partie de l'écosystème. Ce sont nos amis. Ils étaient là avant nous.
Et c'est pas méchant.
Mais c'est pas méchant.
Non.
Et puis t'as ceux qui sont écolos, mais uniquement en temps de paix. et qu'avec des animaux très mignons. Par exemple, t'as un compost, ça attire une colonie de bébés pandas. Pas de problème, ils restent. Face aux rats, c'est pas la même. C'est pas la même. Et là, les gens, ils deviennent fous. Ils disent, faut tous les buter.
Non.
Quand, en plus, il y en a jamais qu'un. Ils sont souvent par deux. Et au bout de, ils se multiplient à une vitesse. Et là, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit, mais attends. J'ai vu le rat, t'as vu le rat, mais est-ce que c'est le même? Parce que je suis pas très physionomiste en rat. En plus, je vais pas commencer à dire oui, mais tous les rats ont la même tête parce que c'est hyper
raciste.
Donc, on a eu la confirmation, merci Google, que l'ennemi naturel du rat, c'était le chat. Donc, on était comme deux couillons dans le salon. Oh, on va prendre un chat. Ça y est, on a enfin l'excuse pour qu'on ait un chat. Mais le problème, c'est pendant les vacances. Qui va garder le chat? Et en plus, si c'est un chat qui a peur des rats, parce que ça arrive,
ouais, c'est vrai.
On va se retrouver avec des rats et un chat qui sert à rien. Et s'il y a un chat, on aura moins d'oiseaux dans le jardin. Or, on a déménagé à 45 km de Paris pour avoir un jardin et voir des oiseaux. Et s'il y a moins d'oiseaux, il y aura plus de moustiques. Donc au final, on va se faire emmerder par des rats, un chat et des moustiques. C'est tout un écosystème bouleversé. En plus, quand tu prends un chat pour tuer des rats, c'est d'une hypocrisie. Parce que finalement, t'es le roi des baltringues. Et tu sous-traites ce que t'as pas envie de faire. Toi, tu veux pas mettre de l'amour au rat, mais par contre, tu vas prendre un chat qui va zigouiller. Ah, mais lui, il est écolo, il le fait. Et tu te dis finalement... C'est peut-être ça qu'il faudrait mettre dans les abattoirs. Tu vois, il faudrait peut-être mettre des lions en liberté pour zigouiller les bestioles et on mangerait que ce qu'ils nous ont bien voulu nous laisser.
Enfin voilà, je vous avais prévenu, j'ai beaucoup de questions et peu de réponses. En attendant, faut que je vous laisse, j'ai un rat à nourrir et il aime pas trop quand je suis en retard.
Frédéric Cyrus.
France Inter, la bande originale avec Nadie.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oula, bien sûr, et déjà désolé pour Monsieur Testu qui m'a appelé à la pause pour me confier qu'il n'en pouvait plus de ne pas être payé pour toutes vos répétitions, Sylvie. Il n'en peut plus, c'est vrai que c'est pas juste. Hein. Allez, courage, monsieur. Désolé pour... Ah bah encore pour Monsieur Testu qui m'a envoyé un SMS à la pause pour rappeler que vivre avec une femme qui mange du camembert au petit-déj, c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est tendu. Allez, courage, monsieur. Désolé pour... Ah pour Monsieur Testu encore, hein, qui m'a envoyé un fax pour me dire qu'il avait beaucoup souffert en entendant Sylvie faire l'apologie de l'adultère tout en se justifiant avec « Mais tromper l'autre, c'est d'abord se tromper soi-même. » Ça doit être l'influence de Leïla et de Nagui. Courage, monsieur. Et désolé enfin pour le rouleau de Nagui
qui on l'a bien entendu ce matin, est au bout du bout. Alors, s'il vous plaît, si vous nous entendez, envoyez quelques rouleaux pour Nagui. Il en consomme énormément. Alors, c'est Monsieur Guy, France Inter, Paris. À la vieillesse, quel naufrage.
Ah, c'est moche. Merci mille fois, Sylvie. Et merci, bravo. Et on vous aime. Ouais. Sylvie Tessu est au théâtre. C'est au théâtre Édouard VII pour l'heureux stratagème.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur Inter, avec Zep, le papa de Titeuf, qui viendra nous présenter Happy Sex. Oui, vous avez bien compris. Le tome 2, en plus. Mais tout de suite, rendez-vous avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.